Je vous invite maintenant à suivre l'unité thématique distanciel numérique. En fait, nous allons finalement poursuivre et creuser les échanges que nous avons précédemment eus cet après-midi au niveau des écritures spécifiques qui ont déjà démontré plusieurs initiatives et utilisations des différents logiciels à disposition. Et là, cet après-midi, on va continuer à présenter au travers différentes communications comment les artistes se sont emparés pendant la crise, mais aussi avant la crise, de certains dispositifs numériques. Voilà, et on va essayer de continuer à détricoter en quoi ça renforce et confirme un rapport spécifique au théâtre et aux spectateurs. Du coup, aujourd'hui, tout de suite, nous allons écouter les communications de Eliane Beaufis, qui est maîtresse de conférences en études théâtrales à l'Université Paris 8. On aura ensuite l'intervention de Ervina Kotoloshi, qui est chercheuse associée à l'IRET, Institut de recherche en études théâtrales de l'Université Sorbonne Paris 3. Ensuite, on invitera donc Elisabeth Vien, qui est donc doctorante, post-doctorante, pardon, à la Sorbonne Université. Et enfin, nous aurons la communication de Marie Ayotte, qui est autrice et metteuse en scène montréalaise et qui nous parlera de sa plateforme qu'elle a spécifiquement développée pour sa propre compagnie. Je vais donc tout de suite vous donner la parole, Eliane. Pour votre présentation, les formes théâtrales participatives par Zoom et Telegram, repenser le rapport au spectatorisme, point d'interrogation. Alors, Eliane, vous êtes maîtresse de conférences en études théâtrales à l'Université Paris 8. Vous êtes membre de l'unité de recherche Scène du Monde et directrice adjointe de l'école doctorale esthétique, sciences et technologies des arts, EDESTA. Dans vos recherches, vous vous focalisez sur les théâtralités et performances contemporaines en Europe, les arts performatifs, les autopoïèses spectatoriales, ainsi que les thèmes de la critique et de la résonance. Vos ouvrages les plus récents sont, excusez-moi si j'écorche, Being Within Contemporary Performative Arts avec Eva Olin, Néophélis 2018. Scène en partage avec Alix de Morant à Montpellier, deuxième époque, décembre 2018, et Touché par la pensée, théâtralité, critique et résonance poétique, ouvrage paru chez Hermann en décembre 2021. Vos projets de recherche actuels examinent les théâtres et performances de l'anthropocène et les théâtralités radiophoniques. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette présentation, Mathilde, et merci surtout à tous ceux qui sont déjà intervenus. J'étais très heureuse d'assister à toutes ces conférences en embuscade. Donc, dans cette contribution, j'entends revenir sur trois expériences théâtrales, ce qui fait beaucoup pour 15 minutes. Je m'en excuse, donc je ne vais esquisser que certains éléments. Mais en fait, j'ai découvert pour ma part toutes les possibilités, enfin certaines possibilités justement, de ces théâtralités numériques, qui ont connu une explosion, notamment en Suisse, en Belgique, en Allemagne. C'est pour ça que je vais me concentrer sur des exemples outre-Rhin. Et donc, en fait, j'ai surtout découvert la visioconférence comme un espace théâtral de représentation et de participation. De nombreuses études attestent ce dont on a déjà l'idée, c'est-à-dire que des images ou des informations digitales affectent moins le public que ne le feraient des personnes ou des environnements physiquement présents. Donc, on tend donc également à penser que l'affectation ou l'engagement des spectateurs sera moins intense vis-à-vis d'un spectacle Internet. Et c'est exactement aussi l'opinion que j'ai souvent eue en regardant des spectacles, ce qui a été un peu conforté aussi par le témoignage d'Armelle Talbot tout à l'heure, même si évidemment de nombreuses démarches développe justement des esthétiques beaucoup plus affectantes, peut-être. Toujours est-il en tout cas que les artistes des trois dispositifs que je vais analyser ont pris le parti quant à eux de développer des formes théâtrales comme des espaces de rencontre. ce qui n'est pas autrement étonnant comme on l'a déjà vu ce matin et tout à l'heure. Mais même comme espace de rencontre, le théâtre pose question à l'arrière-fond de la pandémie en vertu de la multiplication des rencontres sur les plateformes professionnelles et privées, nécessaires mais banalisées. Je présenterai donc d'abord les trois formes spectaculaires. Je fais ensuite l'hypothèse que chaque dispositif tire parti de ses conformations numériques par la participation. Chaque dispositif met plus loin l'accent sur un régime de participation privilégié, ce qui me permet d'établir ou d'esquisser une première cartographie. Et ces régimes de participation promeuvent évidemment des effets esthétiques particuliers et se conjuguent à des effets sociopolitiques. J'essaierai de montrer ainsi que l'intérêt de ces laboratoires théâtraux ne se cantonne pas à une réponse créative en temps de crise, comme on l'a déjà souvent dit. Donc, le premier spectacle, j'ai très peu d'images, je m'en excuse. J'ai eu des soucis d'images, donc vous n'aurez que des traces qui ne mettent pas en jeu en plus des participantes. Donc, le premier spectacle ne s'appuie pas sur un scénario préétabli. Il s'intitule « Serien Junkies Unheimlich Online » et il fait référence à l'addiction aux séries développée pendant les confinements et à l'expérience aussi d'histoires mystérieuses, policières ou gore. Les spectateurs se retrouvent sur Zoom et quand j'y assiste, nous sommes une vingtaine dont on voit tous les visages. Les acteurs sont maquillés avec ostentation, comme vous pouvez le voir. Ils sont affublés de grosses lunettes noires, ce qui joue sur la série noire. Et ce sont donc des sortes de caricatures qui reviennent sur un ton détendu, sur des problématiques qu'on connaît bien, l'étroitesse notamment, qui se manifeste souvent quand on passe de longues périodes chez soi. Donc, ils rappellent que l'habitat devient un endroit plus stratégique encore que d'habitude, ne serait-ce que parce qu'il est plus polyvalent. Et après avoir dévisagé les spectateurs, ils en choisissent une. En fait, ils choisissent une personne en lui posant quelques questions, tout en précisant qu'ils ne veulent pas être intrusifs. Donc, Jacqueline, en l'occurrence, je change un peu les prénoms, présente le lieu où elle habite, l'usage de la pièce où elle se trouve, ses voisins et les alentours. La spectatrice est ensuite invitée à faire le tour de la pièce avec son ordinateur pour en donner une vision donc, à 360 degrés. Et ensuite, les acteurs surprennent un peu les spectateurs en affichant sur l'écran, partagé cette fois, une image tirée de ce showroom. Les acteurs vont garder cette image sur l'écran, donc les spectateurs ne se verront plus guère, ils verront surtout cette unique image, et ils se mettent à raconter une histoire qui émerge d'entre ces murs. La protagoniste n'est pas l'habitante des lieux, mais une personne proche ou un avatar. Donc ici, en l'occurrence, il s'agira d'un certain Jacques au lieu de Jacqueline. Plus tard, ce sera la mère de l'étudiante et ensuite le père de l'ingénieur qui a été interpellé. Donc dans la fiction, qui est improvisée, je trouve, avec brio, parce qu'elle reprend vraiment des éléments de l'entourage et des présentations de Jacqueline. Dans la fiction, des bruits mystérieux amèneraient donc Jacques à sortir de la maison parce que des bruits mystérieux se font entendre et il est obligé de se mettre en contact avec ses voisins et d'aller voir à l'extérieur. Donc, au cours de la séance, en fait, le public fera l'expérience de trois fictions un petit peu angoissantes qui sont ancrées dans les divers intérieurs et qui donnent l'impression d'ouvrir des mondes parallèles. Donc, dans le second spectacle, qui s'appelle Famille le Drôme. Ce spectacle se présente plutôt comme une conférence par le collectif Interrobang. Les spectateurs rencontrent l'acteur principal sur Zoom, tous se voient les uns les autres, puis l'acteur entame un récit. Il est question d'une petite Emilia, ou d'un certain Émile, ça dépend des jours, qui confronte ses parents à des choix délicats. Sera-t-elle allaitée ? Doit-on lui donner le biberon quand elle le réclame ou non? Et en fait, les questions, très vite, s'adressent à tu, c'est-à-dire que les spectateurs sont fictionnalisés par l'adresse comme parents de l'enfant. Ils sont d'autre part invités à prendre une décision. Sur une autre plateforme qui est ouverte en parallèle, ils votent en direct la méthode d'allaitement, par exemple, adoptée. Puis, ils votent combien de temps durerait l'allaitement. L'acteur module le récit de la petite enfance d'Emilia en fonction des réponses spectatoriales qui apparaissent sous forme de graphes. Au fur et à mesure du spectacle, les spectateurs donc, vont être confrontés à la croissance du bébé et à toutes les questions que pose son éducation. Doit-on concevoir les tests auxquels l'enfant soumet ses parents à 3 ans comme une phase de défi ou comme une phase d'autonomie? Va-t-on l'envoyer à l'école publique ou dans un établissement privé? Alors là, les spectateurs disaient privé, d'autres voix ils disent public, donc forcément, se posent donc d'autres questions, par exemple, dans le cas de l'école privée, celle des écoles Waldorf, Montessori, multiconfessionnelles ou non, etc. Les questions s'enchaînent ainsi, donc en fonction des résultats, et se prolongent jusqu'à l'adolescence d'Emilia. Qui confronte évidemment à d'autres soucis, comment introduire les questions de sexualité, comment réagir à sa copine qui reste de longues heures avec elle dans sa chambre et qui est quand même très punk, ou bien un peu plus tard, doit-on lui permettre d'être influenceuse ou non? Donc le récit montre que les questions d'éducation vont directement de pair avec les réflexions sur les rapports familiaux et avec l'autoréflexion des adultes parents. Les spectateurs parents sont contraints de réfléchir sur leurs attentes, sur leur mode de subjectivation, sur leurs désirs projetés sur les enfants et sur leur pouvoir. Comme le narrateur de l'histoire d'Emilia est tantôt un acteur, tantôt une actrice, cela contribue à généraliser les discours et les questions. Tout au long du spectacle, les spectateurs peuvent par ailleurs ajouter des commentaires dans la discussion, comme ça apparaît peut-être sur vos écrans. Ils commentent par exemple une question en la trouvant beaucoup trop tardive. Oh, le problème aurait dû être posé bien avant. Ou bien ils font part de leur étonnement vis-à-vis des réponses de la majorité. À la fin du spectacle, ils peuvent discuter en commun, à leur guise. Ils ont donc la possibilité d'intervenir de 3 manières différentes, au total. Et les discussions se prolongent parfois assez longtemps après la fin du spectacle. Donc, dans le troisième dispositif, il s'agit moins d'un spectacle que d'un dispositif appelé Game Theater par le collectif Machine X, qui est inspiré des jeux audiovisuels. Et ça fait depuis les années 2010, en fait, qui s'inspire de jeux audiovisuels combinés à du théâtre dans leur Game Theater. Ce dispositif commence par un pré-jeu, pre-game, après une phase de contact et d'inscription, en effet, sur l'application Telegram. Chaque spectateur reçoit une enveloppe par courrier. Ils et elles sont invités à effectuer un test préalable à la représentation qui dure environ 1 heure. Donc, dans ce test, on use des feuilles reçues par courrier et on répond en direct sur une plateforme Internet. Les questions et les consignes semblent un peu artisanales, mais on comprend qu'il s'agit de mesurer un petit peu l'état psychologique des spectateurs durant cette pandémie. Puis, le jeu commence. Au début de la représentation, aucune question ne se rapporte au test. Mais les spectateurs se retrouvent dans un groupe de 4 personnes. Et ces 4 personnes sont censées avoir été au lycée ensemble. Tous entrent de ce fait dans un espace fictif et de fictionnalisation réciproque. Les hasards de la pandémie les auraient fait reprendre contact. L'une des femmes aurait croisé Raphaël, qui lui a semblé très farouche. Alors, Raphaël est un ancien camarade de classe. Mais Raphaël... Oui, voilà, semblait donc ne pas vouloir reprendre contact. Le groupe se met alors en 4 pour trouver le numéro de téléphone et appeler le jeune homme. Et celui-ci refuse toute interaction. Si bien que le groupe se met à rechercher des renseignements sur lui et tombe sur son blog de confinement. Alors dans ce blog, tout paraît aller pour le mieux, tout d'abord, puisque le jeune homme a posté des exercices de yoga, de bricolage, de recettes de cuisine. Et au fil du temps, on voit quand même que la progression du blog peut laisser perplexe, parce qu'il fait état de sa décision de respecter un isolement le plus strict possible, donc un isolement qui aurait duré plus de 6 mois au total, et qui se révèle avoir quand même des effets psychologiques assez perturbants qu'on peut déceler sur le blog par le biais de textes, d'enregistrements de paroles un peu plus agressifs ou défensifs, d'images un peu plus perturbantes. Le groupe se rappelle alors du test effectué par tous les habitants, et notamment par les spectateurs, et tente de récupérer les données de Raphaël au cours d'une enquête un peu plus complexe. Et finalement, il arrive à s'introduire sur un site pour récupérer les données. Tous les participants peuvent voir les données de toutes les participantes. Et le test de Raphaël se révèle extrêmement préoccupant. Le jeune homme livre donc les indices de la dépression, si bien que les joueurs finalement se mobilisent pour lui venir en aide, ce qui donne encore lieu à une série de petites démarches d'enquête pour finalement quand même pouvoir lui remettre les résultats du test en main propre par le biais d'un meneur de jeu qui se trouve sur les lieux. Donc, à la fin du jeu, les joueurs sont invités à se retrouver dans un espace de chat avec les membres de leur groupe ou avec d'autres groupes, puisque dans mon cas, il y avait une dizaine de groupes en parallèle. Donc, première petite conclusion, dans les deux premiers spectacles, il n'y a aucun jeu à proprement parler. En fait, les narrations sont davantage contées ou tissées en commun, ce qui assure une certaine distance. Et donc là, ça joue davantage sur l'usage aussi plus ou moins courant de Zoom ou de Telegram. Cependant, la principale rupture pour moi consiste dans le fait qu'on recourt à des narrations, précisément, dont la dimension fictionnelle est très importante. Dans deux des théâtres, les spectateurs sont même complètement fictionnalisés, voire deviennent des personnages décisifs de l'intrigue. Donc, la fictionnalisation constitue la première voie d'engagement des spectateurs et elle introduit en même temps la principale rupture par rapport aux usages courants de Zoom ou de Telegram. Par ailleurs, il n'est guère fait usage d'images ni même de paroles en direct dans les deux cas, alors que la participation sur Zoom, en tout cas en général, se fait surtout par le biais de la parole ou des images. Ainsi, les dispositifs délèguent beaucoup l'imagination aux spectateurs. Et c'est aussi une façon de rompre avec les usages courants de plateforme. Par ailleurs, les trois dispositifs se rattachent à l'ordre de la potentialité. On joue avec les situations, les possibles, et on les ancre le plus près possible de la réalité des spectateurs. On joue avec les réactions des spectateurs comme partenaires de jeu. Et on joue avec le jeu, c'est-à-dire qu'il y a un jeu ostensible, une attitude de jeu et de non-jeu suivant chacun, chacune, puisqu'il est bien entendu que chacun peut aussi utiliser de pseudo, de réactions simulées, etc. Les trois dispositifs font néanmoins appel à des registres de participation un petit peu différents, donc qui sont tant sociaux qu'esthétiques. Dans le premier, Unheimlich, on développe davantage de dynamiques sensibles, puisque en fait, ce dispositif prend racine dans l'habitat concret et visible des spectateurs, si bien qu'il développe avant tout une imagination sensible chez eux, à commencer par les premières présentations de la pièce dans laquelle se trouve la spectatrice Jacqueline, première interviewée. Donc, on pourra revenir éventuellement plus tard là-dessus, mais je passe à deuxième particularité. Chez Familiodrome, il se crée vraiment un espace de débat permanent. C'est vraiment une scène de l'éducation inspirée de l'Émile de Rousseau qui engage chacun, chacune dans des débats. Et ces débats pourraient même être perçus comme une sorte de prélude à une démocratie délibérative et directe. Et dans le troisième dispositif, en fait, il y a vraiment l'accent qui est mis sur le vivre ensemble, sur les processus de solidarité, d'invention de nouvelles structures, par exemple du CAIR, qui devraient être prises en charge par qui? Par l'État, par, voilà. Donc, il y a cette administration fictionnelle qui développe les tests, par exemple, qui est mise en jeu. Donc, il y a des débats, là encore, en sous-main, mais ce qui prend vraiment le pas chez les spectateurs, c'est leur incitation à développer une action. Donc, un processus plus éthique, plus pratique. Donc, dans le jeu, malgré tout, on observerait quelques bémols sur lesquels je peux revenir, parce que c'est quand même le dispositif qui guide le plus les spectateurs. Et en ce sens, voilà, il faut accepter quand même une forme de, non pas de manipulation, mais il faut accéder à la fiction, et il faut accéder à ce qu'il faut rechercher pour trouver les solutions des énigmes proposées. Donc, je voulais juste conclure donc surtout par les dimensions micropolitiques de ces dispositifs, ou en tout cas par les dimensions que j'appelle capacitaires. Donc, dans ces divers cas, on assiste à la création d'un espace mental, d'un théâtre mental ancré dans le quotidien, et qui a trait à des enjeux sociopolitiques immédiats dans Familiodrome et Homecoming. Donc, ce théâtre n'engage pas seulement l'imagination, ni même les sujets que nous sommes, mais il devient un espace de rencontre et de co-création. Il répond donc à certains a priori favorables nourris envers l'art participatif, qui, en développant nos capacités, pardon, contribuerait plus ou moins directement à un empowerment. C'est la raison pour laquelle la dimension collaborative et co-créative de dispositifs est soulignée, notamment par Estelle Zhang-Mengal. Mais plutôt que de revenir à un étalon de mesure démocratique extra-artistique, j'aimerais mettre l'accent sur le potentiel capacitaire, parce que, en appelant les spectateurs à développer des théâtres dans la tête et entre eux, ils en appellent, enfin, ces théâtres en appellent à des capacités multiples, à des capacités à la fois cognitives, idéologiques, éthiques, affectives, si bien qu'on est vraiment beaucoup sollicité et qu'on met en jeu voilà, beaucoup de savoir et beaucoup de soi. Donc, comme à la lecture, en fait, comme on est privé d'images en large partie, les spectateurs doivent construire activement une scène mentale. Cette scène correspond donc également de Homecoming et Familiodrome à la scène d'un débat. Et ce rapprochement n'est pas anodin. Donc, moi, je suis très influencée, enfin très marquée par l'article de Müller-Scholz qui s'inspire lui-même de Derrida, d'un cours de Derrida à l'EHSS, où il commence à parler à ses étudiants en évoquant un individu qui viendrait frapper à la porte à l'aube et qui viendrait lui poser une question brûlante. En l'occurrence, il s'agit de la peine de mort. Et le commencement du séminaire donc, fait Derrida est de la sorte précédé d'une sorte de scène qu'il institue. Il est précédé d'une certaine façon d'un commencement et d'une réponse à une question. Et donc, le chercheur Müller-Scholz montre que toute question et toute scène de théâtre est précédée comme ça d'un théâtre de la question. Et je trouve que justement, dans ces dispositifs, on voit bien cette précession de scènes de la controverse qui sont nourries donc soit de scènes de l'éducation, soit de questions sur les dimensions de politique sanitaire. Et du coup, tous ces débats sont vraiment nourris d'associations multiples, d'images, de scènes qui nous accompagnent. Alors, ceci n'est pas particulièrement original, mais je trouvais intéressant que ces dispositifs, en l'occurrence l'écran d'ordinateur et les espaces de visioconférence, arrivent à renvoyer les spectateurs, à ces scènes actives de la pensée. De même que le plateau de théâtre, ils constituent un seuil, ils ouvrent sur ces autres scènes, et il y a une conscience esthétique qui naît aussi au passage du seuil. Donc, comme sur le plateau, on développe un double ou un triple regard. Et ces théâtres constituent donc des espaces complexes qui activent des registres pluriels, tant cognitifs que subjectifs, conceptuels qu'imagés. Et cette complexité, à mon avis, stimule aussi à son tour l'envie d'écouter et de réagir, donc tant de façon cognitive et consciente qu'intuitive. Donc les césures potentielles avec les usages courants apparaissent encore plus probables si l'on prend en compte le recours abusif aux visioconférences et aux captations pendant les confinements. Claire Marin revient par exemple dans sa conférence du 10 mai 2021 sur les problèmes d'attention liés aux usages fréquents d'écran. D'une part, les mosaïques de visioconférences sur Zoom, par exemple, contribuent à fragmenter et à éparpiller l'attention. Elles contribuent à la désacralisation de l'autorité. Elles contribuent enfin, malgré elles, à réduire ce qui se passe en visio à un spectacle. Or, les dispositifs théâtraux contreviennent à ces divers points. La fragmentation de l'écran est réduite à un plan unique, souvent, pendant la plupart des narrations, ce qui favorise la concentration. Comme une grande partie du spectacle est renvoyée au théâtre mental de chacun sans être illustrée, elle ne peut être spectacularisée et rentrer dans le cirque des images médiatiques. Le spectacle en appelle au corps, à l'imaginaire, aux connaissances, si bien que le cadre exerce moins de violence, moins de contraintes du moins, et cette violence de l'assignation du cadre est également désamorcée par les dimensions ludiques de tous ces dispositifs, sans compter le fait que ceux-ci permettent de développer la responsabilité de manière créative. Donc, l'expérience de réception contribue peut-être, potentiellement, au devenir de chaque spectateur, elle a à même de s'ancrer dans la mémoire. Et enfin, comme le rappelle également Claire Marin, elle réserve une part de parergone. On sait que ce qui marque nos rencontres tient souvent à ce qui les précède ou les excède, comme vous le faites aussi dans ce colloque. Donc, ce qui se passe dans les marges, les rencontres interpersonnelles, dans les couloirs, à la cafétéria, etc., ce qui est ici à chaque fois donc un petit peu reproduit sous la forme de ces chats. Voilà. Donc, en conclusion, on voit bien que l'intérêt de ces dispositifs est loin de se réduire à un pansement thérapeutique de nos subjectivités en temps de pandémie. Voilà. Merci beaucoup.
Bah, merci beaucoup, Eliane. Et effectivement, de remettre aussi au cœur de la réflexion l'aspect politique et, comme vous dites, d'empowerment des publics par le biais de ces dispositifs interactifs, c'est vraiment très intéressant et important. Voilà, bah, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation et aussi pour nous amener vers des créations extra-françaises.